Bon, alors la dernière fois, on avait commencé de façon assez gourmande. On avait commencé donc le thème de la vocation d'Abraham, mais on n'est pas arrivé en fait au bout de ce qu'on pensait faire. Peut-être aussi parce que, je le rappelle, la question de ces textes, c'est que ce sont des textes qui sont brodés, rebrodés et rebrodés. Alors c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire qu'ils sont relus par les générations suivantes. Et c'est la raison. Alors, quelqu'un pour ouvrir la porte. Voilà. Bonjour. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en photocopie un texte que j'ai pris du site de la BNF, hein, la Bibliothèque nationale, sur Abraham. Et c'est justement un très beau texte qui explique comment un texte n'existe pas sans ses interprètes et comment un texte n'est pas fermé, mais qu'il est sans cesse ouvert et réouvert par la lecture des générations qui s'en approchent. C'est un très beau texte. Hein, voilà, moi je l'aime beaucoup. Alors évidemment, c'est une lecture juive, hein, c'est vraiment une approche juive dont on a hérité et dont il faut être pleinement conscient. Pour comprendre la figure d'Abraham, alors oui, bon. Bien, voilà, donc je donne ça à votre lecture, à votre lecture personnelle. Hein. Et puis derrière, vous avez vu, j'ai mis la structure du cycle d'Abraham, une proposition de structure, une carte quand même, et puis un terme sur lequel on va un peu s'arrêter. Voilà. Alors, ce qu'on avait dit la dernière fois, tout petit résumé, la dernière fois, on avait vu que l'appel mettait le personnage qui recevait cet appel, c'est-à-dire la figure d'Abraham, dans une situation d'attente et non pas d'accomplissement immédiat, et qu'il y a toute une épreuve, enfin, quand on dit épreuve, au sens d'un héros, au sens où un héros vit des péripéties pour pouvoir justement être formé dans la littérature, dans les récits, quels qu'ils soient. Donc c'est sous forme d'attente et d'épreuve. Et cet appel, en fait, se comprend et se lit au fil du chemin, au fil d'une pérégrination. Et puis, le deuxième thème qu'on avait vu, c'était celui de l'interprétation, mais aussi, du coup, du rôle des étrangers. Puisqu'on a la figure d'Abraham qui est le père fondateur des Hébreux, mais on voit aussi qu'il est le père fondateur des Arabes, par exemple de la population arabe, d'autres Sémites, et qu'en plus la figure d'Abraham est celle d'un, non pas d'un conquérant, bien qu'il conquiert un petit peuple, mais celle de quelqu'un qui s'accommode de la terre qu'il traverse, il ne fait que traverser. Et il va aussi, en fait, s'adapter et vivre en bonne intelligence avec les peuples du pays de Canaan. Donc on n'est pas du tout dans la logique de la terre promise que l'on conquiert, qu'on verra plus tard avec Josué, par exemple. Même si, on va le voir, puisque ce sont des textes qui sont lus et relus, on a des mentions de la période, justement, de la conquête. Mais ça, c'était brodé et rajouté. Alors, on ne peut pas, c'est extrêmement complexe, ça prendrait beaucoup de temps de voir quelles sont les différentes couches d'interprétation et de réécriture du texte. Nous, on va quand même toujours essayer de garder en ligne de mire cette question de l'appel, de la vocation, de la voix, hein, puisqu'il s'agit bien d'un appel, qui va en fait faire bifurquer l'avenir. L'avenir tel qu'on le conçoit va bifurquer à partir de cet appel, et en fait même, eh bien en fait, l'interprétation immédiate de cet appel va être encore démentie par la suite. Donc si vous voyez, on est dans une interprétation permanente. On est le lecteur, mais aussi le personnage d'Abraham, et dans une pérégrination. Et en fait, c'est l'itinérance, hein, du nomade est au fond l'horizon de tous ceux qui lisent le texte et de tous ceux qui se réclament d'Abraham comme ancêtre, donc en particulier des lecteurs actuels. Voilà, on est dans l'itinérance dans le texte et on n'aura jamais terminé. Alors, je reviens maintenant. On avait juste abordé, commencé et lu la suite donc, de Genèse, Genèse 15. Voilà. Alors, on s'arrête. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Genèse 15? On aurait pu prendre Genèse 13, où il y a aussi une voix qui parle et qui rappelle la promesse initiale, la promesse du chapitre 12 qu'on avait vu, hein, « Va, quitte ton pays ». Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis le cycle d'Abraham. Alors, c'est une proposition, hein, c'est un exégète qui propose cette hypothèse d'organisation très simple du cycle d'Abraham. Alors, vous voyez qu'on appelle ça une structure en chiasme. Ça veut dire, vous avez ce qui est une structure assez classique dans les textes qui sont des textes oraux qui ont été mis ensuite par écrit. C'est pour fixer aussi la mémoire. Et vous voyez que vous avez des chapitres qui correspondent les uns aux autres. Je les ai mis en face. On a le début de la vie d'Abraham au chapitre 12, correspond à la fin de la vie d'Abraham au chapitre 25, vous voyez. Ensuite, on a au chapitre 13 la séparation d'avec Lot, et ça correspond aussi à la séparation d'Abraham au moment du sacrifice, on pourrait dire. Voilà. Après le sacrifice, pardon. C'est quand Abraham, justement, va faire famille de son côté. Ensuite, on a donc du chapitre 13 et le chapitre 24 sont en regard. On a le chapitre 14, Abraham, le pays et ses habitants. Donc, il y a plein d'histoires, assez compliquées d'ailleurs, un peu de guerre, de combat, de conquête, d'alliance. Et ce chapitre 14, eh bien, on peut le mettre en regard avec le chapitre 23, voilà, où il y a aussi des histoires. Voilà. Non, il n'en reste pas. Je suis désolée. Et puis enfin, vous avez le chapitre 16, où il est question de la postérité d'Abraham, mais ça, elle est naturelle, avec sur les instances de Sarah stérile, Abraham prend pour épouse, sa servante Agar, et il a un fils, il a une descendance, puisque au fond, la promesse tarde à se mettre en place. Et puis, en même temps, vous avez, vous voyez, en regard, le chapitre 21, justement, la question d'Ismaël et d'Agar. Et enfin, alors, au milieu, vous voyez, vous avez Abraham, j'ai oublié de dire, au milieu de ces chapitres, vous avez juste au milieu, au milieu de ces sept chapitres qui bordent le centre, vous avez le chapitre 15 et le chapitre 22. Alors, pourquoi le chapitre 15 et le 22 sont-ils ensemble? Ben, il s'agit justement d'une alliance, d'un rituel. C'est un rituel et qui est en rapport avec le sacrifice dont on parlera. Et vous voyez que tout au centre, alors il y a le chapitre 17 où Abraham, Sarai change de nom. Abraham qui veut dire père élevé, père dont le nom était important, et qui va devenir Abraham, le père de tous les peuples. Et puis Sarai qui veut dire ma princesse, et qui va devenir Sarah, qui veut dire princesse. Donc elle n'appartiendra plus à quiconque, peut-être que, voilà, elle s'appartiendra à elle-même. Ça, c'est la lecture de Marie Balmary, que beaucoup connaissent, donc je ne veux pas, voilà. En plus, ce n'est pas du tout dans mes compétences de faire de la psychanalyse appliquée au texte. Voilà. Et donc, on est au cœur, on a le fameux chapitre 18, où vous avez cette visite mystérieuse au chêne de Manré. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'attarder sur le chapitre 15 et sur le chapitre 18. Parce qu'on voit bien qu'ils ont une position importante dans la geste d'Abraham, dans le cycle d'Abraham. Voilà. Et vous voyez sur la carte, vous avez la pérégrination. Alors, je ne sais pas si ça serait peut-être important de le lire. Donc, je le relis parce que je crois qu'on l'avait déjà lu la dernière fois. Le chapitre 15. Alors, il est court. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit : Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta récompense ou ta solde sera considérablement accrue. Abraham répondit : Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla en ces termes, ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Il le mena dehors et lui dit, Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. » Puis il lui dit, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, « C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Seigneur Dieu, répondit-il, « Comment saurais-je que je le posséderai ?» Il lui dit, « Procure-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Abraham lui procura tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque partie en face l'une de l'autre. Il ne partagea pas les oiseaux. Des rapaces fondirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. Voici qu'une terreur et une épaisse ténèbre tombèrent sur lui. Il dit à Abraham, « Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des esclaves qu'on opprimera pendant 400 ans. Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront. Ils sortiront alors avec de grands biens. Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ta descendance reviendra ici car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble. » Le soleil se coucha et dans l'obscurité, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux. En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate, les Kénites, les Kénizites, les Cadmonites, les Hittites, les Périsites, les Réphaïtes, les Amorites, les Cananéens, les Girgachites et les Jébusites. Voilà, ça c'est tout le plaisir de lire ces noms exotiques. Hein. Voilà. Bon, alors vous voyez que là, la promesse qu'on avait vue donc au chapitre 12, elle tarde à s'accomplir. En fait, il y avait deux promesses. Hein. Il y avait à la fois une terre et une descendance. Et c'est ce qui va créer une tension dramatique dans toute l'histoire, en fait, dans tous ces chapitres qui racontent l'histoire d'Abraham. Il faut un certain temps pour que s'accomplisse cette promesse. Et en fait, elle va s'accomplir d'une manière que Abraham ne peut pas anticiper. Alors ici, on a une scène un peu grandiose, bon, étonnante déjà, et aussi grandiose et un peu mystérieuse, parce qu'il y a un rituel qui est difficilement déchiffrable pour nous. Alors, évidemment, c'est le pendant de Genèse 22 où il est demandé à Abraham de sacrifier son fils. Eh bien, ce sont les deux seuls chapitres où on voit, enfin les deux seules scènes, où on voit un rapport d'intimité entre Dieu et Abraham. Il n'y a personne, il n'y a pas de témoin, et on est dans une relation personnelle, et on a peut-être aussi là l'image d'un Abraham un peu plus mystique, un peu plus spirituel et visionnaire que l'Abraham qu'on avait vu au chapitre 12. Alors, il s'agit dans les deux, au chapitre 15 comme au chapitre 22, de la question de la paternité. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui intéresse Abraham ? On le voit plus que les terres, eh bien, c'est le fils et la descendance. Alors on sait, ce sont des nomades et des semi-nomades, et en fait, une descendance, c'est ce qui permet d'avoir un avenir. D'ailleurs, la descendance en hébreu, toledot, ça veut dire aussi l'histoire, au sens l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire on n'a pas d'histoire à partir du moment où on n'a pas de descendance. Et ce sont des peuples fragiles, dans ces milieux semi-désertiques, on comprend que la descendance et la fertilité, et du coup la stérilité, et ce sont des problèmes vraiment vitaux pour la figure d'Abraham. Et puis en fait, on voit dans le passage qui précède que Abraham a conquis des terres. En tout cas, il a gagné des batailles, et on dit qu'il est allé au-delà de Damas. Donc ça veut dire qu'il a fait la conquête de Damas. C'est quand même assez loin de l'endroit où il est maintenant. Donc c'est pas la question de la terre, et au fond on voit bien que lui non plus ne reste pas dans ses terres, c'est un semi-nomade, c'est la question de son avenir qui le taraude. Et justement, juste avant, Il a délivré son neveu Lot, qui était à Sodome, et il a aussi délivré les rois de Sodome et de Gomorre, et qui veulent lui offrir un cadeau. Et il refuse ce cadeau. C'est pour cette raison qu'au début, il lui dit, vous avez une bénédiction, ne crains rien, Abraham, c'est moi ton bouclier, ta solde, ça veut dire ta récompense et ton butin, hein, sera considérablement accru. C'est-à-dire, tu auras encore plus que ce à quoi tu as renoncé de la part de ces rois de Sodome et Gomorre. Donc on voit bien la figure d'Abraham qui finalement est beaucoup plus attaché à une parole, pourtant démentie par la réalité, qu'à des cadeaux et à des bénéfices immédiats. Vous voyez la figure, hein, de la, ce qu'on appellera plus tard la figure de la foi. Alors pour continuer...
Excuse-moi, oui.
Alors en fait, c'est ce rituel qu'on pourrait... Bon, je vais venir directement au rituel, hein, puisque vous posez la question. Non, bon, on peut y aller tout de suite. Ce rituel étrange où on coupe en deux un animal, et vous voyez, ce n'est pas les petits animaux, c'est les grands, donc il s'agit bien là, justement, de traverser. C'était des rites de sacrifice qui étaient répandus dans le Moyen-Orient, et même en Grèce, et qui permettait en fait de symboliser et de manifester concrètement le fait qu'il y avait deux parties qui étaient liées, d'une part, c'est pour ça qu'on va voir justement le terme de l'alliance vient en partie de là, et on demandait aux contractants de passer au milieu pour bien signifier que si on ne respectait pas cette alliance, hein, ces engagements, eh bien on pouvait être coupé en deux comme l'est l'animal sacrifié. Alors, sauf que là, il y a quand même un doute, enfin bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais vous voyez dans le texte que c'est Abraham ne passe pas au milieu, déjà, que là, au milieu, on a ce feu. Alors vous, le feu là qui passe comme ça, ça vous fait penser à quoi? Je regarde là, hein. Carrément un four, hein, moi. Ça vous fait penser à quoi? Qui passe au milieu comme ça? Alors, on pourrait penser au buisson ardent, et puis on pourrait penser à quoi justement? Voilà, la nuée, la colonne de feu. La colonne de feu qui guide le peuple dans la nuit. Hein. Donc, il s'agit bien de la présence de Dieu aussi. Hein. Il y a quelque chose de divin qui est là. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, si vous voulez, les exégètes, ils disent, mais c'est pas comme dans les rites de sacrificiels du Moyen-Orient ancien et même de Grèce, parce que en fait, là, les animaux qu'on donne dans les sacrifices hébreux, c'est des animaux qui n'ont aucun défaut. Et ça veut dire que l'homme qui va faire ce rituel ne s'assimile pas à cet animal. D'accord ? Il ne peut pas s'assimiler à l'animal parce que s'il ne respecte pas cette alliance, il va lui arriver la même chose qu'à l'animal. Donc ça veut bien dire que dans les sacrifices hébreux, hébraïques, celui qui le fait ne s'identifie pas à l'animal. Voilà. Il donne le meilleur de ce qu'il a reçu, un peu comme dans les prémices. Hein. On donne le meilleur à Dieu de ce qu'on a reçu, mais on ne va pas donner un animal qui va représenter sa faute pour être expié. Vous voyez la nuance ? Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice d'expiation, même si on a des sacrifices d'expiation dans les textes bibliques, hein. Mais les exégètes disent non, d'ailleurs Abraham ne passe pas au milieu, donc c'est pour cette raison que c'est un rituel un peu mystérieux, mais moi je trouve au fond qu'il faut lui garder son mystère, on ne va pas trop creuser parce que de toute façon ces textes-là on n'aura jamais le sens initial, hein. Puisqu'on n'a pas le texte initial non plus. Donc, on va renoncer voilà, à tout comprendre. Alors, je vais revenir donc au début du texte. Alors, déjà, vous voyez, je suis ton bouclier, c'est moi ton bouclier, et au fond, c'est moi ton butin. C'est très fort. Ça veut dire que, d'une certaine manière, là, on pourrait même dire que Dieu se donne en butin. Se donne comme butin à Abraham. Donc c'est une relation très forte, hein, de confiance et d'intimité, finalement, entre les deux. Et puis, vous voyez qu'Abraham répond, « Oui, mais il répond à la question essentielle pour lui. C'est quand même la question de l'avenir. Hein. Oui, mais voilà. Alors, qui est cet Eliezer de Damas, qui en plus est né de ma maison ? Sans doute un serviteur, hein, qu'il a envoyé en éclaireur devant lui à Damas. Donc c'est à quelqu'un de sa maison, un esclave ou un serviteur. Ça veut dire, tout ce que j'ai finalement va être dilapidé parce qu'il n'y a rien qui vient de mes entrailles. Et justement là, il est question, il lui dit, c'est de tes entrailles, hein, que c'est celui qui sortira de tes entrailles. Alors c'est très étonnant parce que d'habitude les entrailles c'est destiné aux femmes. Et là, et on dit dans un autre texte de Genèse, on parle, quand on parle à un homme, on dit celui qui sortira de ta cuisse, hein, bon, pas Jupiter, hein, mais celui qui sortira de ta cuisse et pas de tes entrailles. Donc là, il y a quelque chose de féminin aussi, hein, on verra justement hein, pourquoi tout à l'heure. Voilà. Alors, donc il s'agit bien d'une promesse qui parle de fécondité réelle. Et nous, on sait d'entrée, quand le pédigré d'Abraham au chapitre 11, qu'il a une femme stérile. Et je vous rappelle, la stérilité dans le Proche-Orient ancien, ça vient des dieux. Et dans c'est une décision, puisqu'on ne peut pas le comprendre, c'est une décision divine. Et c'est vraiment le malheur par excellence, c'est la malédiction. Donc là, c'est...
J'ai encore une question.
Oui.
Pertinente, mais si c'est sa femme qui est stérile, ça veut dire que lui, il a des enfants ailleurs.
Ben, on va voir après, justement. Alors, là, vous n'étiez pas là la dernière fois, mais justement, on ne peut pas trop dire il le sait pas, parce que tous ces textes sont recousus, raccommodés. Si vous voulez, vous avez des pièces rapportées. Donc, on ne peut pas trop faire une lecture linéaire, parce qu'il y a des contradictions, hein, parce que ces textes ont été ajoutés par la suite. Hein. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans ce détail. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une promesse qui est quand même assez provocatrice pour la raison. Hein. Donc ce n'est pas toi qui hériteras, c'est celui de tes entrailles, qui sortira de tes entrailles. Et voilà, il lui dit, contemple donc le sort et contemple le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Alors dites-moi, qu'est-ce qui cloche dans cette parole ? C'est un appel, hein. C'est un appel, qu'est-ce qui cloche ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que vous trouvez ça normal, vous ? Parce que nous, on connaît le texte, mais...
Il demande de faire quelque chose qui est impossible.
Oui, pourquoi ?
Compte les étoiles, si tu peux les compter. Donc, il sous-entend qu'il n'arrivera pas à les compter.
Alors, oui. Alors, déjà, on ne peut pas compter les étoiles. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, on ne peut pas les compter. Pourquoi ?
Le problème de chronologie, le soleil se couche ensuite.
Le problème, très juste, hein, le problème de la chronologie. Puisque vous voyez au verset 17, le soleil se coucha. Après. Donc ça veut dire que c'est en plein jour. Alors comment est-ce que vous... Alors moi, c'est important que... comment vous pourriez interpréter cette parole ? Compte les étoiles si tu peux. Donc tu ne peux pas les compter puisque déjà, on est en plein jour.
Ça fait penser à ce qu'en temps Job aussi.
Oui, mais comment vous pourriez-vous... Voilà, vous êtes devant le texte, vous avez ce petit détail qui ne frappe pas tout de suite, mais comment vous l'interprétez, vous ? Parce qu'on va faire comme les autres... qui ont réinterprété ces textes, hein. Nous on a le droit. Hein.
C'est l'infini.
Comment ?
Pour moi c'est l'infini quand on compte les étoiles.
Alors compte les étoiles déjà, ça veut dire voilà, tu es devant, tu es devant un appel qui est vraiment, démesuré. C'est une parole démesurée, tu ne peux pas la faire. Déjà, elle s'annonce comme impossible à réaliser. Et ensuite, maintenant, essayez de voir physiquement. Compte les étoiles comme ça en plein jour. Qu'est-ce que ça suppose ?
Voir au-delà.
Oui ?
C'était voir au-delà de ce que je peux voir.
Voilà, ça veut dire je ne vois pas. Je ne vois pas puisque c'est en plein jour. Mais je sais qu'il y a des étoiles puisque je connais les retours et le cycle des jours et des nuits. Donc,
en fait, je n'ai pas besoin qu'il fasse nuit pour savoir que je ne peux pas compter les étoiles.
Exactement. Voilà, hein, très bien, voilà. Et alors, vous comprenez pourquoi ? Enfin, parce que ça, vous voyez, on essaie de lire dans les détails pour essayer de comprendre aussi la lecture qui a été faite du personnage d'Abraham par toutes les générations qui ont suivi, notamment Paul aussi. Là, dans l'épître aux Galates, vous voyez, dans l'épître aux Romains, comment ils ont construit aussi l'image de la foi qui est la perception des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, la, l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et ça commence par des choses très concrètes. C'est-à-dire que nous, on se dépêche de courir dans le texte et parfois un détail nous prive en fait de comprendre la foi. C'est très concret. Je ne vois pas, Abraham ne voit pas. C'est impossible qu'il voie. Alors, ce n'est pas seulement la notion d'infini qui est quand même là, mais c'est aussi l'impossibilité matérielle de voir les étoiles en plein jour. Voilà. Alors, il lui dit... voilà, Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Alors ça, vous êtes habitués, vous, hein ? Tout le monde connaît, hein ? Dans l'épître aux Hébreux, dans l'épître aux Galates, dans l'épître aux Romains, ben, tout ce qu'ont fait les lecteurs, ils ont repris cette phrase. Alors en fait, il y a là quand même, c'est pas tout, enfin vous voyez, c'est déjà là aussi une interprétation parce qu'il y a plusieurs textes. Et en fait, l'hébreu, c'est une langue à racines, une langue assez pauvre dans la syntaxe, qui fait qu'au fond, on est devant des interprétations multiples. Et en fait, on peut très bien traduire, on a tout à fait raison, je vais vous le dire, parce qu'il y a différentes traductions. On pourrait très bien dire que Abraham considère que celui qui dit... attendez, je cherche le terme... pas que je me trompe, voilà, on pourrait très bien dire que c'est Abraham qui justifie Dieu, c'est-à-dire c'est Abraham qui croit et qui dit que du coup Dieu est juste, et non pas Dieu qui dit que comme Abraham croit, eh bien il est juste. On peut dire les deux sens sont possibles. Et si vous voulez, dans Néhémie, donc beaucoup plus loin, dans le texte de Néhémie au chapitre 9, eh bien, on a une version qui nous fait penser que ce serait plutôt Abraham qui dit que Dieu est juste et non pas le contraire. D'accord ? Parce que si je lis, alors j'ai beaucoup de. Voilà, si je lis Abraham, Néhémie, voilà. Au chapitre 9, « C'est toi le Seigneur Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our des Chaldéens, qui lui a donné pour nom Abraham. » Donc vous voyez, on reprend sans cesse cette parole. Ensuite, il dit « Tu as trouvé son cœur fidèle envers toi, tu as conclu avec lui l'alliance pour lui donner le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Jébusites. » Tiens, on les revoit là, hein, d'accord ?« Et pour le donner à sa descendance. » Et voilà ce que dit la suite du texte, qui est la même chose que le texte, là. Tu as accompli tes paroles, car tu es juste. Hein? Donc, vous voyez que... c'est, pourquoi est-ce que je vous donne ces deux versions? C'est pour vous dire qu'au fond, l'interprétation, elle est double. Et on peut interpréter dans un sens comme dans l'autre, et comprendre aussi pourquoi Paul aurait plutôt interprété dans le sens de « il est juste parce qu'il a cru hein? ». D'accord ? Parce que évidemment, lui, il est dans un dialogue avec la justification par la loi, par le respect des lois, hein, de la Torah. Voilà. Donc c'est pas si simple que ça. C'est un texte plus ambigu qu'on ne pourrait penser. Alors je continue la lecture. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il lui dit. Alors maintenant justement, hein, regardez. Procure-moi. Bon, Dieu lui dit, alors il demande un signe. Et ce signe, Dieu lui demande de faire. Le signe, c'est Dieu qui. Enfin, le signe, c'est lui qui doit l'aménager. C'est lui qui doit le mettre en scène. Il doit installer, on va dire, c'est comme une installation. Il va installer quelque chose où Dieu va lui montrer quelque chose. C'est, voilà, ce rituel qui est quand même assez impressionnant et qui est le rituel d'un sacrifice. Alors, vous voyez, il y a le « procure-moi une jeunesse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans hein. ». Ça, c'est dans le Lévitique. D'accord ? Alors, vous voyez bien que les textes, hein, c'est rajouté, c'est... Voilà, on fait un aller-retour dans l'histoire. Hein. Donc, simplement, on respecte les dispositions de la loi, tout bêtement. Hein. Voilà. Et puis, des rapaces fondirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Eh bien, en fait, ça, c'est aussi la malédiction qui est, qui est incluse dans les sacrifices. Si ceux qui ne respectent pas les sacrifices, dans d'autres textes, dans Néhémie, mais aussi dans Jérémie, eh bien, à ce moment-là, le corps de ceux qui n'ont pas respecté le sacrifice et qui pourtant sont passés au milieu, donc on voit bien que c'est un rituel qui s'est fait plusieurs fois, eh bien, ce corps est dévoré par les oiseaux du ciel. Donc c'est une malédiction. Et là, on voit qu'ils les chassent, la malédiction est tout de suite éliminée. Donc ça veut dire que ça a bien marché. Voilà. Et une torpeur saisit Abraham. Eh bien, en fait, si vous voulez, la torpeur, c'est pour renforcer aussi la vision. On voit bien que l'appel se fait dans des circonstances un peu exceptionnelles. Ce n'est pas une parole banale, habituelle. Ça se fait dans des circonstances exceptionnelles. Puisque là, une torpeur et une terreur tombent sur lui.
Une torpeur, quelle est la définition ?
C'est un sommeil qui n'est pas un sommeil naturel.
Ah, un sommeil.
Oui. C'est la torpeur qui est tombée sur Adam quand Dieu lui a prélevé une côte. Vous vous souvenez ? Sauf que Adam n'a pas parlé, alors que ici, dans sa torpeur, Abraham est en dialogue avec Dieu. Donc on voit bien la figure est déjà un peu plus évoluée.
D'accord, ce que je disais juste, est-ce qu'on peut l'assimiler quand le Saint-Esprit tombe sur des personnes, en fait, on pense, quand il parle en langue, qu'ils sont pleins de vin doux, qu'ils sont en dessous.
Oui, il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements qui ont été faits. Oui, oui, on peut. Alors, c'est délicat parce que ce n'est pas vraiment une torpeur, par exemple, dans les actes. Et au contraire, ils sont dans une espèce d'enthousiasme. Comment ?
Surexcitation.
Oui, enthousiasme au sens de. Ils sont habités par Dieu, au sens grec du terme. C'est un peu différent. Voilà. Parce que si vous voulez, c'est pas comme dans des rites qu'on trouvait en Grèce à l'époque où vous aviez des rites dionysiaques où on prenait des boissons, on tombait dans des torpeurs. Vous voyez, c'est un peu différent. Bon, là, c'est simplement pour dire que cette communication, cette parole, cet appel, il n'est pas naturel. Voilà. Et pour dire l'importance de cette parole aussi, c'est une façon de l'aborder, de lui mettre un cadre doré pour dire ça, il faut regarder, c'est important. C'est là que ça se passe. Voilà. Alors vous avez, la suite. Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas, gna 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 gna, il sera des esclaves et tout ça. Alors vous dites, ça c'est tout de suite, on est... Oui ? On est dans Exode, voilà, on a rattrapé, on a inséré ce que l'on sait, donc on voit bien que c'est une lecture, une relecture. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une prémonition, enfin, en tout cas, c'est pour dire qu'il y a une prémonition, la promesse va s'accomplir, mais pas de façon si linéaire qu'on pourrait l'imaginer. Voilà. Donc, je vais plus vite, là. Le soleil se coucha et dans l'obscurité, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux. Hop, on est à nouveau là.
On remonte
dans l'Exode. On est en plein désert. En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays, le fleuve. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est vrai ça ? Enfin, est-ce que ça s'est vérifié ? Ce pays qui a été promis, est-ce que ça allait du fleuve Égypte au fleuve Euphrate dans l'histoire ?
Non,
jamais, mais jamais.
Plus petit.
C'est nettement plus petit, là, c'est un petit peu, voire en grand. C'est la folie des grandeurs. Et vous voyez les Kénites, les Kénisites, etc., c'est les conquêtes de Josué. Voilà. Donc vous voyez qu'on est dans la relecture. Alors vous voyez, qu'est-ce qu'on... Bon, moi, je ne lis plus mes notes, alors je sais pas trop ce que je raconte, mais je pourrais faire une petite conclusion, même si j'ai sans doute oublié des choses. Petite conclusion là sur Genèse 15. Alors déjà, Genèse 15, si vous lisez le livre de Thomas Romer, c'est précisément ce sur quoi parce que c'est un livre collectif, les différents intervenants se sont arrêtés. Donc si vraiment ça vous passionne, lisez-le parce que c'est pour montrer comment est constituée la figure d'Abraham, en fait, à partir de Genèse 15. Donc vous voyez, c'est sans doute très très riche, c'est un texte très riche. Le livre, ah oui, parce que je l'ai, du coup, je vais vous le dire, parce que je vais ça s'appelle Thomas Römer, donc Abraham, nouvelle genèse d'un ancêtre. Nouvelle jeunesse d'un ancêtre, c'est chez Labor et Fides, mais ça date déjà de 1997.
Nouvelle
jeunesse. Jeunesse, hein, d'un ancêtre aux éditions Labor et Fides. Jeunesse. Oui, parce que vous voyez bien qu'il est sans cesse rajeuni, revisité. C'est comme dans les. Enfin, c'est comme les standards de musique hein, ou de films. Hein. On est toujours en train de les reprendre et les réinterpréter. Hein. Voilà. De s'en emparer à nouveau. Alors, donc vous voyez qu'on retrouve dans Genèse 15 toutes ces allusions à des textes déjà connus hein, de la Torah. Donc le motif du fils, le séjour en Égypte, donc Exode, les sacrifices de Lévitique. La conquête de la terre promise, enfin de Canaan en Deutéronome. Et alors, je ne m'y suis pas attardée, on pouvait même y rencontrer les figures royales de David, hein, de Josias, mais ça, je n'ai pas le temps, sinon on n'y arrivera jamais. Hein. Voilà. Alors, vous comprenez pourquoi, finalement, c'est vraiment le père des trois monothéismes, hein, parce que vous voyez que tout le monde peut s'en réclamer. Ismaël, donc la figure des Arabes, hein, des descendants d'Ismaël. Et puis vous voyez que cette promesse se réalisera, mais qu'elle va aussi supposer des exodes en Égypte, que la Mésopotamie va aussi devenir une terre d'exil. On le voit avec la mention de l'Euphrate à la fin. Voilà. Hein. Et on voit enfin que encore là. Abraham est toujours au contact de populations étrangères et qu'il n'est pas dans l'emprise et dans la domination, mais il est dans une sorte d'arrangement avec ses peuples voisins dans le pays de Canaan. Voilà. Alors maintenant, on va lire le texte suivant, qui n'est qu'une partie du chapitre 18. Vous avez ici. Alors je le cherche. Voilà. L'ai-je mis. Alors je vais vous prendre le. Ça ne vous embête pas, j'ai perdu le mien. Alors, le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux, aperçut trois hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre. Se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si je peux trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur, qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah « Vite, pétris trois mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillet de lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Il se tenait sous l'arbre debout près d'eux. Ils mangèrent et ils lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit, « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit, « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir ? Et mon maître est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham, « Mais pourquoi ce rire de Sarah ? » Et cette question, « Pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. » Sarah nia en disant, « Mais je n'ai pas ri, car elle avait peur. » « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. » Les hommes se levèrent de là, portèrent leur regard sur Sodome. Abraham marchait avec eux pour prendre congé, et le Seigneur dit « Vais-je cacher à Abraham ce que je fais ? Abraham doit devenir une nation grande et puissante en qui seront bénies toutes les nations de la terre, car j'ai voulu le connaître afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il a prédit de lui. Voilà. Alors déjà, à la lecture, vous voyez que on n'a plus le même... On n'a plus le même nom, hein ? Voilà. Il est... Bon, il s'est passé des choses, mais ça, c'est mieux que vous le lisiez vous-même, hein, puisque ça sortirait de la vocation... Enfin, vous pourriez le comprendre, si, on comprendrait de cette manière la vocation, mais vous pouvez le lire seul. Nous, on va regarder le texte en détail. Alors, on est aux chaînes de Manré. C'est pour ça que je vous ai mis la carte, vous voyez ? Alors, les chaînes de Manré, c'est au sud. Vous voyez ? C'est près de Hébron. Voilà, d'ailleurs, vous l'avez ici. Voilà, c'est à 3 ou 4 km d'Hébron. C'est sans doute un sanctuaire pré-israélite. Parce que dès qu'on a la mention de chaînes, ça veut dire qu'il y avait des cultes pré-israélites. Donc c'est quand même un lieu solennel. Et donc, et vous voyez qu'on est là aussi. Regardez, on est à quel moment de la journée ?
Au plein midi, sûrement.
On est sans doute au plein midi, hein, puisqu'on dit dans la pleine chaleur du jour, on est à midi. Alors voilà, on sait qu'à midi, on ne bouge pas une patte, hein, parce que on ne peut plus. Hein. Donc tout le monde, sans doute, il y a une forme de torpeur naturelle, là, pour le coup. Hein. Et là, vous voyez que d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? On passe de la, du calme placide et solennel à... Qu'est-ce qui se passe ? Là, regardez ce que fait Abraham, là. D'abord, il y a trois hommes qui arrivent, et ensuite... Bon, c'est de l'agitation, il court dans tous les sens. Hein. Vous avez vu, enfin, là, il est vraiment agité. Hein. Voilà. Et donc, ces trois hommes debout près de lui. Hein, donc, il ne les a pas vus venir. Alors, moi, je suis désolée, mais quand on est dans une région semi-désertique, déjà la poussière, hein, on voit quelqu'un arriver. Donc, on voit bien que là, il se passe quelque chose qui n'est pas... Voilà. Hein. Bon. Alors, il courut à la tente, de la tente à leur rencontre, et ils se prosternent à terre. Alors, sans doute, hein, se prosterner, soit c'est un signe d'hospitalité, hein, de déférence à l'égard de tout étranger dans des régions où il y a si peu de rencontres, celui qu'on rencontre, il est très important, et il a une singularité, on le voit. Et puis aussi, on sait aussi que la vie est fragile dans des conditions pareilles, donc... On prend soin de lui. Hein. C'est l'hospitalité orientale. Hein. L'hospitalité de toutes les tribus qui vivent dans des conditions difficiles. Hein. De toutes les personnes qui connaissent la fragilité humaine dans des conditions hostiles. Donc vous voyez... alors, Monseigneur, n'allez pas croire que c'est normal. Hein. C'est la déférence minimale que l'on doit à quelqu'un. Hein. Les peuples orientaux sont très respectueux de l'autre. Si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur, qu'on apporte de l'eau pour laver les pieds et vous reposer sous cet arbre. Voilà, un morceau de pain pour vous réconforter. Donc on voit bien que c'est très concret. Et au fond, c'est en fait, il met en route des gestes habituels. Hein. Il n'y a rien de bizarre dans ce qu'il fait, hein. Mais vraiment rien. Voilà. Et vous voyez qu'il met Sarah à contribution aussi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez aussi encore là, dans ce qu'il demande à Sarah ? Il demande quoi ?
De cuisiner.
Oui, mais à nouveau quoi ? Mais regardez précisément.
La pétrie.
Oui ?
La pétrie, c'est pas elle qui s'occupe du méchoui,
apparemment. Oui, on peut dire ça, oui. Et pétrir. Trois mesures. Hein. Il y a trois hommes, il y a trois mesures. On a vu tout à l'heure trois ans. Donc, il ne faut pas chercher trop le sens, unique là, mais on voit bien qu'il y a des répétitions. Alors ça, c'est aussi hein, pour bien retenir. Hein, c'est des techniques aussi de transmission orale. Trois mesures de fleurs de farine et fait des galettes. Hein. Voilà.
Ils ont trois, mais parfois, il paraît qu'il y en a qu'un.
Comment ?
Parfois, il paraît qu'il y en a qu'un.
Ah oui, alors justement, voilà, vous avez très bien noté qu'on ne comprend plus, parce qu'il y a trois hommes et il y a une seule personne qui parle.
Le sein de la Trinité, c'est qu'il n'y a pas
voilà.
À l'époque de la
Non, déjà, vous voyez que la question de la Trinité, c'est pas que ça ne date pas que du 4e siècle après Jésus-Christ. Non, alors il ne s'agit pas de Trinité. Et vous pensez bien que la tradition chrétienne, surtout médiévale, a lu la mention de la Trinité, ou la prémonition de la Trinité, ce qui est quand même un peu, pour nous, tiré par les cheveux. Voilà, hein. Donc pour nous, on a vraiment... Alors, il y a quelque chose de trine, hein, c'est-à-dire, effectivement, il y a quelque chose en trois, bon, ça, on est bien obligé de le dire, et on ne va pas non plus penser qu'il n'y en a pas, d'accord ? Alors, il peut aussi y avoir, bon, on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer, mais on peut aussi avoir comme interprétation, justement, vous dites qu'il y en a, il parle au singulier, il dit « mon Seigneur », et après, c'est une personne qui parle. Alors, on pourrait imaginer quoi, alors ?
Il pense qu'il y a un chef.
Il y a un chef, et puis il y a... deux serviteurs, hein, on peut dire ça, hein, après tout. Bon, ensuite, on sait aussi que quand il y a une parole tout le corpus vétérotestamentaire, et ensuite on verra aussi dans le Nouveau Testament, une parole, qu'est-ce qui atteste la parole? C'est quand il y a, en plus de celui qui dit, il y a deux témoins. Hein. C'est donc pour renforcer la... Voilà, donc on voit bien là la vocation, elle est quand même très importante. Et alors, vous connaissez tous le tableau de Chagall, hein, les anges, parce que c'est des personnages mystérieux. On peut penser que c'est des personnages célestes. Et puis, ce sont des messagers aussi. Hein. C'est pour cette raison que la tradition médiévale, et même avant, dans l'Antiquité tardive, juive, on a fait de ces personnages des messagers, donc des anges. Hein.
Qui accueille aussi les dieux et les traite bien. Et...
Oui, parce que voilà, vous voyez que là c'est une visite qui est cachée quand même. Parce que là aussi, hein, on entend les chevreaux qui bêlent. Voilà, il y a la tente en poil de chameau. Enfin, on peut imaginer, c'est vraiment un contexte très agreste, très bucolique. Hein, c'est pas voilà. Bon, c'est quand même sur un site, religieux, mais si vous voulez, c'est pas très solennel. Hein. Donc, le fait de mettre ces trois personnes qui arrivent, c'est une visite divine qui est anonyme, qui est cachée, hein, comme pour dire que la parole. L'appel se cache sous des traits très quotidiens. Voilà. Parce que nous, on en a fait tout. Vous voyez, le problème, c'est qu'on a plein d'images. Hein, jusqu'à Chagall, on voit des anges, mais on ne sait pas. Le texte est très, très sobre. Hein, c'est trois hommes. C'est tout ce qu'on sait. Hein, voilà, trois hommes. Je dois... Voilà. Alors, ce que Sarah va faire, il y a quelque chose qui devrait aussi vous turlupiner un peu là, dans ce qu'il demande à sa femme. Vous qui connaissez un peu les règles, le Lévitique.
Pourquoi il lui demande où est ta femme ?
Ah oui, lui, d'un seul coup, tiens, voilà. Normalement, c'est pas vraiment. Alors, elle est très belle, on le sait. Hein. Bon, mais alors donc, il y a d'autres hommes qui s'y sont intéressés. Hein. Vous vous souvenez, le pharaon et puis Abimelech.
On mange du veau et on boit le lait en même temps.
Voilà. Hein. On mange du veau et pourtant on prend du lait caillé. Alors ça, c'est pas possible. Hein. C'est strictement impossible dans la loi du Lévitique et vous savez aussi que dans des familles juives qui sont très observantes, on a deux vaisselles hein, pour ne pas mélanger. Justement, le lait
du carnet.
Et le carnet. Hein. Voilà. Alors là, déjà, vous voyez, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais ce n'est pas tout à fait dans les normes. Hein. Bon. Ensuite, on est étonné qu'il demande où est sa femme. Et on voit bien que dans le texte, désormais, Abraham, bon, il va s'agiter, hein, vous avez remarqué, mais qui est-ce qui va prendre le devant? Enfin, qu'est-ce qui va se faire sur le devant de la scène? C'est Sarah. Hein. C'est Sarah.
Et son rire.
Et son rire, hein, voilà. Sarah et son rire. Bon. Alors, regardez sa position, c'est très intéressant. Elle est où, Sarah?
Entrée de la tente.
Alors, elle est dans la tente.
Derrière lui.
Alors, ensuite, elle est dans la tente et après, elle est aussi...
À l'entrée.
à l'entrée de la tente. Donc on ne sait plus. Elle est à l'extérieur, à l'intérieur. Alors d'abord à l'intérieur, ensuite à l'extérieur. Elle écoute aux portes. D'accord. Donc on vous voyez que là, on parle qu'elle a écouté. Elle écoutait à l'entrée de la tente. Donc on est à l'extérieur hein, pour l'instant. Et quand on dit, elle se mit à rire là, toujours à l'extérieur, mais regardez ce qui est intéressant, elle se dit en elle-même. Ça veut dire qu'on rentre, on était à l'extérieur, d'abord on était du côté d'Abraham, ensuite, la focale s'attarde sur Sarah, qui était à l'extérieur, et en fait on rentre à l'intérieur de la tête de Sarah. Enfin, c'est-à-dire, à ce coup, on a sa pensée, hein, la pensée de Sarah. Tout usé comme je suis, est-ce que je pourrais encore jouir? Et mon maître est déjà si vieux. Hein. Voilà. Et ce rire, hein, pourrais-je vraiment enfanter? Alors, comment vous interprétez ce rire? Oui. L'incrédulité, voilà. Bon, c'est normal. Oui. Alors, vous dites l'espoir qui peut reprendre. Alors, une sorte de gêne aussi. On rit quand on est gêné. Elle est peut-être aussi gênée parce que déjà, vous avez peut-être raison. Peut-être déjà, il y a l'amorce d'un croire et que c'est plus fort qu'elle. Voilà.
Oui, je crois que c'est mêlé.
C'est très mélangé. Hein. Alors, évidemment, ce rire a fait des kilomètres de commentaires. C'est pour ça que je vous demande plutôt de vous prononcer sur ce rire, parce qu'au fond, on a le droit. Voilà, donc on peut dire à la fois c'est de la résistance, c'est de la gêne, et en même temps, c'est le début d'un croire. Hein. Ça peut être aussi de l'autodérision. Hein. Moi, je suis vieille, moi, je suis désolée, mais vous voyez déjà les chairs pendantes. voilà. vous entendez ça, ça vous fait rire de vous-même, non? Hein, ça peut être aussi
d'autodérision.
Enfin.
C'est aussi un refus de rentrer dans cette espérance.
Ça peut être, on peut aussi l'interpréter comme ça, du genre, je me protège.
Ben oui, parce qu'effectivement, si elle rentre dans cette espérance, elle a peur que ce soit... souvent, il y a des choses auxquelles on ne veut pas croire, parce que quelque part, ça nous entraînerait trop...
Oui, ça nous impliquerait. Ça nous impliquerait.
On a peur d'être déçu.
Et on a peur d'être déçu.
Ouais. Par la suite, elle veut confirmer, je n'ai pas ri, car elle avait peur.
Voilà, après, elle a peur. Donc, c'est très juste. Hein. Donc, ça veut bien dire qu'au fond, quand on parle de vocation, là, on a la vocation d'Abraham, mais qui s'attarde sur sa femme, Sarah. Et on voit bien que c'est pas si simple. En fait, il y a une multiplicité de sens et qu'il est difficile, au fond, d'avoir une interprétation unique. Et en même temps, on a l'impression qu'une seule personne peut passer par tous ces états. Si on essaie de se mettre à ça...
En fait, c'est très bref. Et là, rien que d'en parler, ça prend... On met plusieurs causes là-dessus, mais ça se passe très vite.
Ça se passe très vite. Tout est mêlé. Au fond, c'est comme vous, et comme moi, enfin, comme nous... quand on a une parole comme ça d'espérance, de l'évangile, on l'apprend dans le psaume, enfin peu importe, mais on l'apprend, on se dit oh ça va pas, et puis on y croit quand même, et puis on fait des allers-retours, on dit non mais arrête, t'es vraiment gamine.
Dans la Bible, on en rit beaucoup.
Non, en tout cas la mention est peu fréquente, mais on sait que Dieu rit. Ça, c'est sûr.
Jésus, il pleure, mais il ne rit pas.
Non, Jésus ne rit pas. Non.
Pas dans le récit.
En tout cas, non. En tout cas, pas. Ce n'est pas dit.
Ouais. Hmm?
Mais
il a lu.
Mais à mon avis, il a vu des occasions de rire. Hein, mais... mais ce n'est pas dit. Mais si vous voulez, là, c'est... Alors, si vous voulez, c'est intéressant parce que ce rire... Il est sur le seuil. Elle est sur le seuil, Sarah. Hein? Elle est à la fois à l'entrée de la tente. Ce qui montre bien que le rire, c'est aussi le lieu du passage. Hein? Et d'ailleurs, on sait très bien qu'on rit dans les moments de passage. C'est-à-dire qu'on passe d'une réalité à une autre et ça nous fait rire. C'est ce que dit Bergson, mais pas que lui. Mais ces changements de situation brutales provoquent cette réaction. Qui fait qu'on n'a pas le temps de s'y habituer et on n'a pas le temps d'interpréter. Et au fond de nous, il y a cette réaction hein, de rire qui est une gêne. En même temps, on y croit pas. Voilà. C'est très intéressant. C'est peut-être aussi, ça donne un peu la signature de ce que c'est que la vocation et de la promesse. C'est quelque chose qui est immédiatement perçu, à laquelle on s'accroche. Et au fond, c'est quelque chose qui est sans cesse ébranlé en nous.
C'est quand même une énorme surprise aussi déjà.
C'est une surprise, une irruption. Tout à fait.
J'aime bien la phrase qui dit elle avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes.
Ce qu'ont les femmes, voilà. On voit bien que avoir ses règles, c'est être impur, hein, parce qu'on fait une périphrase. Hein, vous avez vu. Voilà. Oui, c'est assez bien. C'est joliment dit. Vous voyez, c'est pour cette raison que, enfin, c'est parce que j'essaie de garder le fil hein, de la vocation, et c'est aussi nous d'en avoir une lecture personnelle. On peut pas, chacun a sa vie et chacun a son rapport au texte, et puis peut-être aussi à une vocation, à sa vocation, et ça permet aussi de comprendre notre rapport à la vocation. Et vous voyez, vous avez raison de dire, c'est toujours l'irruption, comme ces trois hommes, c'est une irruption. Et dans la promesse, et dans le parcours de la promesse, dans la pérégrination d'Abraham, elle arrive tard. Elle arrive tard. Il a reçu sa promesse à 75 ans, et là, il en a 90. Ça fait 25 ans. Vivre 25 ans avec une promesse qui ne se réalise pas. Il faut tenir tout de même, non ? Et puis, il faut y penser quand même. Hein. Les nuits ont dû être quand même... Enfin, bon, je dis ça parce que c'est exactement ce qu'on a de nous avec nos nuits. On y réfléchit et voilà, on n'a pas de réponse. Donc, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui, à la fois, est sans cesse différé et en même temps, c'est ce qui fait l'identité de la personne. Voilà. Et cette fragilité de la promesse, la fragilité de la parole... qui à la fois parfois est extraordinaire, et on croit que Dieu peut tout, hein, puisque rien n'est impossible. Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait trop prodigieux pour le Seigneur ? Ben, on dit non, enfin, ça c'est vrai. Hein. Mais au fond, l'application concrète et pratique est quelque chose qui ne peut que susciter des rires. Hein. Parce que voilà, on se voit tout de suite en situation, on se dit non, je ne vais pas me déguiser en Superman, ou voilà, non, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Hein, voilà.
Ça fait un peu penser à ce que dit Proust, quand il a mis tant de temps à renoncer, au début, hein, il a fait tant d'efforts pour renoncer jour après jour, et puis si un petit peu d'espoir lui est donné, il va recommencer tout le travail de renonciation.
Mmh. Ouais, exactement.
Et donc il n'en veut pas.
Oui. Oui. Et c'est pour cette raison que le désespoir, en quelque sorte, est beaucoup plus facile que l'espérance. Je ne parle pas d'espoir, hein, parce que l'espérance, c'est vraiment encore autre chose. Hein. Mais oui, c'est en tout cas, c'est plus facile. C'est plus naturel. Parce que c'est les protections que l'on met en place, justement parce que la déception risque d'être tellement gigantesque. Oui, vous avez raison. On a tellement traversé jusqu'à présent, oui, qu'on ne veut pas reprendre ça à nouveau frais. Hein, ça, c'est, oui, voilà. Enfin bon, voilà, je crois que là, on va laisser ça parce que ça, chacun va se l'approprier. Et puis, vous voyez, les hommes se lèvent et ils portent un regard sur Sodome parce que bon, il va se passer des choses. Voilà. Et Abraham marche avec eux pour prendre congé. Donc, c'est à la fois un geste d'hospitalité. On ne va pas laisser les invités partir comme ça. Mais c'est aussi parce qu'il veut sans doute un peu imaginer, hein, rester le plus proche possible de la personne qui a émis cette promesse. Hein, voilà.
Il ne l'a pas inconnu, parce que moi je me pose quand même cette question, puisqu'il était tellement proche de Dieu au chapitre 15,
oui.
Il est si proche de quelqu'un, en principe, on le reconnaît.
Le texte ne dit pas, mais on peut l'imaginer, oui. Mais c'est ambigu. Mmh. On peut l'imaginer, mais on n'aura jamais de réponse. Vous pouvez l'imaginer, je peux l'imaginer, mais je ne peux pas dire que c'est exactement ça.
C'est bizarre parce que quelqu'un qui débarque et qui vous dit voilà ce qui va se passer, tu vas avoir un enfant, deux de tes entrailles vont sortir, alors qu'en fait, la réalité, ce qui est concret, vous montre que non, a priori, c'est terminé. Mm-hmm. Alors, à part Dieu, qui peut venir vous dire ce genre de choses et laisser en vous un réel espoir ?
Voilà, voilà, une espérance même. Mm-hmm. Hein, parce que c'est pas un espoir d'avoir un enfant quand on est aussi vieux. Mm-hmm. Et d'ailleurs, vous avez vu que Abraham et Sarah ont un sens pratique quand même, parce que Sarah, elle dit, bon, au chapitre 16, c'est bon, tu prends une servante et tu as un descendant. Ce qui était d'ailleurs, ce qui est là aussi la marque d'un rajout, parce qu'en fait, c'est des contrats de mariage, c'est dans les contrats de mariage de l'époque assyrienne et babylonienne. Hein? Quand une femme est stérile, eh bien, on peut prendre une servante. Comment ? Oui, 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 oui. Mais en fait, on voit aussi que là, c'est la mention d'un ajout ou d'une relecture ultérieure, hein, l'histoire au chapitre 16. Alors voilà, on continue, parce que je regarde l'heure. Alors, le dernier verset quand même, enfin non, l'avant-dernier, « Vais-je cacher à Abraham ce que je fais, justement ?» Ça va dans le sens de de votre remarque. C'est qu'il y a une complicité maintenant. Hein, et au fond, la vocation ou l'appel, c'est pas quelque chose qui va tomber sur quelqu'un et qui va manipuler la personne pour lui faire arriver d'un point, enfin, passer d'un point A à un point B, par exemple de Haran à, par exemple, à Hébron, par exemple. Hein, c'est pas de cet ordre. Hein, vais-je cacher à Abraham ce que je fais ? Là, on a vraiment l'idée qu'il y a une collaboration entre Abraham et Dieu. C'est pas du tout, il n'est pas du tout agi, il est en collaboration. Et vous voyez, à nouveau, les grandes nations de la terre, hein, donc ça veut bien dire qu'il mérite son nom, là, enfin, c'est la déclinaison de son nom, hein, il sera voilà, père de grandes nations. Voilà, car j'ai voulu le connaître, afin qu'il... J'ai voulu le connaître, alors ça au sens fort, hein, d'accord ? Hein, j'ai voulu une relation intime avec lui, une relation de complicité, d'intimité et de connivence avec lui, afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Alors ça, on voit aussi que c'est un ajout, hein, ça c'est très deutéronomiste. Et ainsi, le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il a prédit de lui. Hein, donc là, ça clôt la péricope. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? C'est que finalement, avec ces trois personnages, hein, dont on n'a pas élucidé au fond hein, leur identité, on n'a pas pu les démasquer, et ils n'ont fait que passer. Ils n'ont même pas passé la nuit, vous avez remarqué. Ils ne sont pas restés dans la tente. Ce qui veut bien dire qu'au fond, l'appel et l'appel que Abraham reçoit, et qui pourtant va être à l'origine de la suite, puisque c'est une nouvelle histoire qui commence à partir du chapitre 18, et bien en fait, cet appel-là, il est laissé dans l'esprit de la personne, dans sa conscience, mais il ne laisse pas de traces, hein, vous avez remarqué, hein, c'est très fragile, et il est laissé dans la conscience, dans la mémoire, mais Dieu ne s'attarde pas, hein, et on ne le met pas non plus à résidence, hein, dans une tente, comme on va faire après dans la tente de la rencontre. Hein. Donc c'est vraiment furtif, et au fond, les visites que Dieu nous adresse, les appels qu'il nous lance sont des appels furtifs, qui sont fragiles et qui sont peut-être aussi, ben justement, qui peuvent provoquer le rire, mais aussi le rire a posteriori, parce que parfois on se dit, mais j'ai mal interprété ce que je croyais être la volonté de Dieu pour moi. Hein. Et parfois on se moque de nous-mêmes, on se dit, mais quelle naïve d'avoir interprété aussi bêtement. Et en fait, non, enfin, je ne sais pas comment vous faites vous, mais on n'a jamais terminé d'interpréter. En fait, voilà, on est nomade, et c'est ça être nomade, en fait. Hein. C'est ça la terre promise. La terre promise, c'est une terre de pérégrination, où on ne possède pas, mais où on est sans cesse assuré qu'il y a une suite, et que l'histoire ne s'arrête pas. Voilà.
Et ça commence par « il leva les yeux ». S'il avait gardé les yeux sur son téléphone portable,
Oui, c'est assez juste. La dame dit, il leva les yeux, ça veut bien dire que s'il avait laissé son regard porté sur son portable, il aurait laissé passer cette visitation. On peut dire, c'est une visitation, hein, un petit peu comme Marie. Oui. Oui, oui, parce que c'est aussi une visitation et une annonciation, hein, vous voyez, à chaque fois. Hein, un petit peu comme Marie, elle aussi qui n'enfante pas de façon naturelle. Enfin, vous voyez cette thématique. Hein, et vous souvenez-vous que les générations, c'est-à-dire la descendance, ça veut dire aussi l'histoire. Hein, donc ça veut dire, est-ce qu'après moi, il y aura une suite, hein, voilà, ce qui nous, enfin, là aussi, nous habite tous, hein, ce souci. Est-ce qu'après moi, c'est le néant ? Est-ce que je vais pouvoir transmettre quelque chose ? Voilà.